Bienvenue sur les podcasts de la collection Enjeux et repères. Aujourd'hui, nous allons parler de la société commerciale. Ce sujet est abordé dans le chapitre 15 de votre manuel. Si on veut créer une entreprise à plusieurs, il faudra forcément constituer une société. Dans un premier temps, voyons donc ce qu'est une société. Une société a un but lucratif, ce qui la différencie par exemple de l'association. Créer une société, c'est créer une personne juridique nouvelle, distincte de la personnalité juridique des membres qui la composent. Une société est donc une personne morale, identifiée par sa dénomination sociale, son siège social et sa nationalité. Elle dispose d'un patrimoine autonome et indépendant du patrimoine des associés. Et comme vous l'avez vu en classe de première, une personne morale ne peut pas exercer elle-même les droits dont elle est titulaire. Selon le type de société, elle doit donc être représentée par un gérant, un directeur général ou un président. Cette personne morale peut s'éteindre par la dissolution de la société, suivie de la liquidation des biens et du paiement des dettes, et la radiation du RCS, Registre du commerce et des sociétés. Comme vous le savez, la société naît d'un contrat entre plusieurs personnes, les associés, qui ont envie de travailler ensemble de manière active, volontaire et égalitaire. C'est l'affectio societatis. Les statuts matérialisent ce contrat en fixant les droits et obligations des associés. Les associés apportent à la société des biens en numéraire, l'argent, des biens en nature, c'est-à-dire des biens corporels ou incorporels, comme des immeubles, du matériel, de la clientèle, un brevet, ou leur industrie, c'est-à-dire leur travail. On dit que les apports en numéraire et en nature forme le capital social de la société. En échange de son apport, chaque associé reçoit des droits d'associé, appelés parts ou actions selon le type de société, qui génèrent des droits. Financiers, par exemple toucher un bénéfice, politiques, être informé, voter, et patrimoniaux, c'est-à-dire la possibilité de céder les titres. Et ces droits seront bien sûr proportionnels à la part de l'associé dans le capital social. Notons également que les associés contribuent aux éventuelles pertes. En général, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. En cas de difficulté financière de l'entreprise, les créanciers ne pourront se faire rembourser qu'à hauteur du patrimoine de la personne morale et ne pourront pas toucher le patrimoine des associés. Intéressons-nous maintenant à la prise de décision dans les sociétés. Retenez simplement qu'il y a deux types de décisions. Les décisions liées à la gestion courante, comme le recrutement, les achats, l'organisation des équipes, sont confiées aux dirigeants, que l'on appellera gérant, président ou directeur général. Les décisions délibératives, comme la modification des statuts, l'affectation des bénéfices, le changement de siège social, sont quant à elles plus impactantes et sont liées aux droits sociaux des associés. Les dirigeants doivent donc solliciter leur accord. Les actionnaires se réunissent en assemblée générale et les décisions sont prises à la majorité. Parlons enfin d'un type de société spécifique, la société coopérative. Pourquoi les différencier des autres sociétés? Tout simplement parce qu'une coopérative est un modèle d'entreprise démocratique. Sa gouvernance est fondée sur le principe « une personne, une voix » et le fait que ses membres sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés. Les coopératives sont donc moins centrées sur le profit à court terme et sur la rémunération des actionnaires. Les SCOP, sociétés coopératives participatives, sont un type de coopérative encore plus spécifique. Elles sont formées par des travailleurs, associés concrètement à la gestion de l'entreprise. Le contrat de travail et le statut d'associé sont étroitement liés et la rupture de celui-ci engendre la perte de la qualité d'associé.